l'Église du Dieu vivant, du Dieu intervenant. Vivant, ça veut dire ça, hein, ou bien ? Colonne et l'appui de la vérité du Dieu intervenant. La maison de Dieu. Dieu habitant sur la terre. Pas n'importe quoi. On devrait ôter tous nos souliers, là. Merci à la Frey. C'est un... Je vous considère comme des bergers, des bergères. Hein. Je suis avec vous. Nous avons le même souci de l'Église. Ce dont nous allons parler n'est pas un héritage automatique, c'est un héritage qui est volatile, j'aimerais vous le dire. C'est chaque génération de le retrouver. Vous ne pouvez pas l'enfermer dans une confession de foi. C'est du vécu. C'est du miracle. Une Église prophétique, c'est-à-dire qui donne un message sur Dieu, hein, dans son style de vie, dans sa manière de vivre, c'est du miracle. J'avais donné une contribution au séminaire éthique donné à Emmaüs en mai 2007, et ça a été publié, donc plus de détails par rapport à ce que j'apporte là, vous le trouverez là, ainsi que dans 5 autres livres. J'ai amené quelques livres, vous les trouverez à la sortie, je les présenterai encore tout à l'heure courtement. J'utilise PowerPoint, c'est pour ne pas me perdre, et c'est pour que vous puissiez bien suivre les différentes étapes par lesquelles j'envisage vous faire passer. Rien n'est neutre de ce que je vais vous dire, ça va ? Développer en Église un style de vie prophétique. Allez, laissez-moi utiliser un mot qui n'est pas encore dans le dictionnaire français. Un style de vie missionnal. C'est moche, hein, mais ça fait rien. J'aime pas missionnaire, parce que c'est trop des spécialistes, mais missionnal, c'est la dimension de tout ce qui se fait dans ce groupe de personnes qui a été appelé pour être différent au sein du monde. L'ecclésia, appelé hors d'une mentalité. Développer, c'est un processus, à mon avis, jamais fini, compte tenu de ce que nous sommes, c'est-à-dire de ce que je suis et de ce que je sais que vous êtes aussi. Je vais le garder dans une perspective. Je ne pense pas que les ingrédients des choses que je vais vous apporter sont pour vous neufs. Je pense simplement que l'enseignant touche à la proportion des choses, à l'angle des choses. C'est les mêmes ingrédients. Simplement, on voit différemment parce que la manière de les voir, le « en vue de quoi » des choses, est des fois différent. Voici le menu. J'aimerais reprendre en condensé quelques-uns des éléments du style de vie qui parle. Prophétique, c'est-à-dire qui parle de la part d'eux. Ou missionnal, ça veut dire envoyé pour apporter un message. Un style de vie qui parle. Je sais que je suis invité à plus mettre l'accent dans cette journée sur la dimension communautaire, et on va le faire. Ça va devenir outrageusement concret dans l'après-midi. Nous avons 60 minutes, là, jusqu'à 10h30. Nous prendrons du temps pour ça. Dans un deuxième temps, j'aimerais revenir à ce qui me semble être des éléments fondamentaux. La parole que l'Église doit jamais oublier au sujet des ordres de Jésus-Christ pour elle-même. Les paroles les plus importantes que l'Église doit entendre dans tous les siècles, cadeau des apôtres à la fin de leur vie, Matthieu en l'occurrence, puisque je l'ai choisi là par rapport au sermon sur la montagne, je l'intitule « La justice du royaume ». Et là, j'aimerais vous montrer en quoi cette justice-là est différente de la justice habituelle des hommes. Qu'est-ce que c'est cette justice qui permet de voir le règne de Dieu et d'y entrer? L'après-midi, après un pique-nique, je traiterai avec vous, non, vous traiterez par des exemples, des incarnations concrètes de l'engagement de Dieu dans le monde au travers de nous. Je me réjouis de les entendre il y a une trentaine de minutes, je ne pense pas m'être trompé sur le timing, des témoignages. Hein. Je continue. Matthieu, le sermon sur la montagne, c'est 3 chapitres. Il y a la justice du royaume, chapitre 5. Il y a la spiritualité du royaume, c'est-à-dire la spiritualité nécessaire pour accomplir la justice du royaume. Pas n'importe quoi, hein, d'accord? C'est pour ça que j'ai ici... Que pouvons-nous accomplir en Église? C'est de développer une spiritualité adéquate. La spiritualité en elle-même, où la prière ne m'impressionne pas trop, je ne crois pas qu'elle impressionne le Seigneur Jésus, mais certaines prières, vous saisissez? La spiritualité du royaume, c'est-à-dire la spiritualité qui aide à tenir la route pour le programme de la justice du royaume. Ça, c'est chapitre 6 de Matthieu. Et chapitre 7, il y a un tas de conseils pratiques de Jésus pour ceux qui veulent prendre au sérieux la mise en pratique. Ça va? Déjà, on a fait le survol du sermon sur la montagne. Des spiritualités du royaume et éléments pour la mise en pratique, questions et échanges, nous n'avons qu'une quinzaine de minutes, mais c'est pas grave. On a le reste de la vie pour correspondre, réfléchir, laisser décanter, réajuster. Ça a passé tout seul ou c'est moi qui l'ai fait? Vous avez suivi quand même? Alors, des choses élémentaires. Ce qu'est un style de vie prophétique, laissez-moi vous dire que de toute façon, le style de vie parle. Quoi que vous fassiez, ça parle. Les gens, vous le savez, entendent d'abord ce qu'ils voient et constatent. Et après, le discours. Des discours extraordinaires, vous en avez plein, les émissions. Enfin, plus ou moins extraordinaires. Hein. Des gens qui veulent vendre leurs trucs pour le bonheur. Il suffit de voir les pubs. Hein. Donc des discours, il y en a plein. Des idéologies, il y en a plein. Des religions, il y en a plein. Mais un style de vie prophétique. Prophétique, si c'est Dieu, c'est une manière de vivre qui parle, entre guillemets, de Dieu, qui parle de Dieu. Vous avez des publications, une analyse qui montre en quoi la vie que nous menons parle. Dans les publications suivantes, certains sont abonnés à ROCMA, ça vous dit quelque chose, je pense à la plupart d'entre vous, numéro 92, 2007, et également publié là derrière dans le dossier de Christel. Mais également, les aînés parmi vous s'en souviendront, dans la déclaration de Lausanne, réactualisée en 1980, « Vivre plus saintement, plus simplement, saintement c'est pareil », c'était un engagement de la chrétienté évangélique mondiale dans la déclaration de Lausanne, dans le texte « Vivre plus simplement ». Alors, dans ce que je vais dire, je présuppose que celui ou celle qui fait la volonté de Dieu a une vie qui parle de Dieu. Ce n'est pas la peine de me prouver que Dieu est bon, ce que tu vis me dit que Dieu est bon. Ce n'est pas la peine de me prouver que Dieu est fidèle, ce que tu vis montre que tu es fidèle. Ce n'est pas la peine de me prouver que Dieu est droit. Ce que tu vis me montre que Dieu est droit. Juste quelques paroles suffisent. Parce que ça convainc. Par contre, l'inverse est aussi vrai. Tu peux parler, mais si ce que tu vis est en contradiction flagrante, ça sonne creux. Il y a cette dimension missionnelle qui n'a pas de portée, pas de souffle, parce que c'est pas contagieux, ça donne pas nécessairement envie. L'idée que Dieu se cherche un peuple est très vieille et traverse comme un fil rouge toute la Bible. C'est aussi bien le dessein de Dieu quand il a sauvé Israël de l'esclavage de Pharaon que dans le Nouveau Testament. L'idée qu'il veut un peuple qui le glorifie, une race de prêtres, un peuple de prêtres. Je ne sais pas si vous pensez à ça. C'est ce que nous avons, nous, comme grand trésor dans les églises de professants, c'est-à-dire des églises dont on devient consciemment membre par un témoignage de foi. D'accord ? C'est que notre désir, et ce n'est pas que seulement les pasteurs ou les élites prennent au sérieux la dimension missionnelle, mais c'est que chaque membre devient quelque part vecteur d'une communication de Dieu. C'est ainsi que je comprends, déjà dans le livre de l'Exode, l'appel de Dieu avant le veau d'or, qui va culbuter un tas de choses, le souci de Dieu, vous serez pour moi un peuple de prêtres. C'est pas un peuple avec une caste de prêtres, mais c'est que le peuple en lui-même représente auprès de Dieu, prêtre, autre chose. Entendez, les peuples. Une nation sainte, un peuple de prêtres, prêtre pour un peuple, ça veut dire qu'il représente auprès de Dieu quelque chose. La maison de Dieu, c'est dans la prophétie biblique extraordinaire le lieu où vont converger toutes les nations. Oh, Dieu est assez têtu, on dit têtu, ou déterminé, hein, on dit positivement. C'est vraiment, il lâche pas le truc. Avec ou sans nous, c'est ce qu'il veut. Je dis avec ou sans nous, avec une certaine crainte. Hein. Il trouvera ses moyens pour arriver là. Et c'est quelque chose qu'on trouve célébré aussi bien dans l'Exode 19, avec les accommodements, les réajustements à cause d'un peuple indocile, que dans le Nouveau Testament, avec 1 Pierre, la reprise d'un peuple au sein des peuples. Son objectif, c'est le monde. Son moyen, c'est un peuple. Ça, c'est de l'ecclésiologie de bas de gamme. Vous me pardonnez de dire des choses simples, mais elles sont si importantes. En vue de quoi l'Église est une très bonne question. Si quelqu'un développe une doctrine de la prédestination où il se croit le chouchou de Dieu, il a fini. S'il sait qu'il est le moyen de Dieu pour une grâce plus grande que lui-même, il n'a pas fini, je peux vous dire. Vous saisissez ? L'Église entière, dans sa visibilité, est concernée par notre sujet et c'est redoutablement pratique. Je préfère rêver, je suis un grand et un doux rêveur, hein. Mais quand ça devient concret, en quoi mon Église locale devient-elle signe de Dieu dans sa manière de traiter des conflits ? Parce qu'il ne faut pas rêver, hein. On doit s'ajuster, c'est comme le mariage. Hein. C'est même plus compliqué que le mariage. Et on devient membre. Et c'est vrai que quelqu'un qui devient membre, quand il a dans sa tête, membre n'est pas un statut, c'est une fonction. Dans une mission, ah ben ça change. Je ne suis pas sûr que tous ceux qu'on baptise sont très au clair sur le sujet. Et que c'est à cela que nous sommes engagés. Et alors, le début de ce drôle de sermon, ce n'est pas un sermon de grâce, hein, c'est une compilation des paroles les plus importantes que l'Église de tous les siècles doit retenir. C'est une compilation faite par un apôtre. Un douanier, tant pis, on lui pardonnera, mais c'est... Et inventez pas n'importe quoi sur Jésus, ça, c'est ce à quoi vous êtes appelés. Et engagé. À mon avis, je crois qu'ils ne se trompent pas, ceux qui disent c'est probablement un catéchisme de l'Église primitive. 5 à 7. Ça ne veut pas dire que le reste ne l'est pas. Hein. Voilà. C'est drôle de relire Paul avec les yeux de Jésus d'après les évangélistes. C'est pas drôle, c'est très beau. Ça corrige des manières de comprendre. Et l'inverse aussi d'ailleurs. Hein. C'est à cela que nous sommes engagés. Et moi je suis indisposé des fois par l'indicatif. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. L'indicatif, c'est même pas un impératif. Ça me frappe, hein. C'est tellement clair la chose de Jésus que il présuppose que quand on fait ce programme, c'est inévitable qu'on ait la fonction de sel et de lumière pour le reste. C'est pas, entendez bien, c'est la sauce à laquelle on mange tout. C'est pas le chapitre que l'on va ajouter au reste pour l'appeler mission évangélisation, vous comprenez? Je vais vous redire ça parce que c'est simple. La fonction de sel et de lumière, c'est la sauce à laquelle on mange tout de la vie. C'est pas le chapitre que l'on va ajouter à la formation théologique qui s'appelle évangélisation mission. Vous savez ça. Nous voilà donc poseur de signes. Oui. Signes, ça communique. Vous avez vu, ça m'a dérangé tout à l'heure pendant la louange. Je me suis rendu compte que ce truc qui clignotait, vous avez vu sur l'écran, ça dérange. Hein. Moi, ça m'a dérangé. C'est un signe qui empêchait juste un tout petit moment de te suivre, mais c'était facile de te suivre. Parce que le signe qu'il posait était plus important que ce petit truc-là qui voulait rien dire pour nous. Nous voilà poseurs de signes. Pas malgré nous. Parce que la mission, c'est ce qui nous tombe dessus quand on devient chrétien. Nous voilà poseurs de signes. Des signes comme la manière de gérer les sous, individuellement, en famille ou en église. Une économie plus fraternelle, des signes comme la manière dont nous avons de nous comporter les uns avec les hommes, hommes et femmes, dans une société érotisée ou romantisée. Ça se dit ? Maintenant, ça se dit. Des relations plus fraternelles, bienveillantes. Pas des relations de clics. Et là, il n'y a pas que les ménos qui sont concernés. Hein. Et pourtant, c'est une bénédiction de faire partie d'une famille dynastique. Mais si ça devient plein en soi-même, c'est tout un message pour ceux qui ne font pas partie de ces familles dynastiques, n'est-ce pas ? Un peu plus de passion pour la réconciliation. C'est quand même incroyable. La passion de Dieu pour la réconciliation. Conciliation. Vous vous rendez compte, il va jusqu'à pousser le bouchon et nous dire que si lui a quelque chose contre soi, c'est à nous d'aller le trouver. C'est pas si nous en avons contre lui qu'il va le trouver, ça, tout le monde fait à peu près. Mais si lui, éventuellement, en a contre vous, va le trouver. C'est quand même gros, hein. Vous savez, connaissez cet ordre de Jésus ? Si, les évangéliques connaissent les ordres de Jésus, n'est-ce pas ? Si je vous dis, donnez-moi 20 ordres clairs de Jésus, vous les énumérez en 5 minutes. Non. En général, on sort, quand je pose la question aux églises, dites-moi 20 ordres clairs de Jésus pour lesquels on ne tergiverse pas. Réponse, soyez toujours joyeux. Non, mais c'est déjà pas mal, hein, remarquez. Hein. Et puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est déjà gros. Mais après, ah si encore, allez par tout le monde, fais des disciples. Après la fin de la phrase, on ne sait plus trop, mais c'est déjà pas mal remarqué. Mais peut faire mieux, il y avait souvent ce mot. Une spiritualité un peu plus reconnaissante, moins non tournée autour de soi. Des rapports un peu plus authentiques. Ah ben ça va pas, je te dis, ça va pas. J'ai pas envie de te dire maintenant, mais plus tard, je te dirai. Mais un peu plus authentique. Une passion pour la justice. Signe, allez, laissez-moi vous dire. Pour moi, quand je m'approche d'une église, les signes d'une spiritualité authentique, c'est quand ils savent encore se plaindre droitement. Entendez, quand ça les affecte encore, l'injustice et la peine dans leur région et dans le monde. Quand ils ont encore mal, une église qui a encore mal, c'est pour moi un signe de bonne santé. J'ai dit droitement pour la plainte. Hein. Une passion pour la terre, aimée de Dieu, et ceux et celles qui l'habitent. Donc, ce que vous voulez dire, voilà, poseur de signes dans le tout de la vie. Quand je réfléchis aux entraves éventuelles, les entraves éventuelles que l'on trouve aussi dans l'Église, en moi-même, ce sont les forces du péché, les forces à l'œuvre dans une société malade qui court à combler des bonheurs là où le monde ne procure pas de bonheur au fond. Une société qui court, qui est crevée, pardonnez-moi, mais une société qui est exténuée de courir après des idoles. Exténuée. Les gens cherchent tous la même chose, au fond. Quelque chose qui nous libérera au fond. Au fond, tout le monde cherche. Vous pouvez le croire, tout le monde court. Il ne courrait pas s'il ne le cherchait pas. On cherche à combler quelque chose. Ces forces qui guident une société malade doivent pouvoir voir un lieu ou une société de Dieu. Une société de Jésus, tiens, ça me rappelle quelque chose d'autre. Une société de Dieu, vie des alternatives, vie des solutions de remplacement. Vous savez, ce qui fait courir les Suisses et les Alsaciens et les Français et les Allemands et tous les autres, c'est la peur de manquer. La peur de l'insécurité. Je la sens en moi aussi. La maladie de la réserve. Et on met de côté au cas où, croyant que, et c'est une vieille histoire ce truc, mais ces forces-là sont en nous, sont autour de nous. Et il faut une grosse puissance pour changer les mauvaises habitudes. Ces forces sont à l'œuvre, notre médiocrité naturelle, l'angoisse, la peur de manquer, l'avidité. Et Richard Foster disait très justement, se conformer à une société malade, c'est d'être malade. Alors n'apportez pas des remèdes de guérison dans vos propos. Si quelque part, on n'est pas au moins en route pour changer la mentalité. De fausses idées de ce que Dieu veut finalement, qu'est-ce qu'il veut et qui il est. L'idée de la bénédiction pour soi, du salut pour soi, ça ne vaut pas à la longue. L'idée que le salut n'a rien à voir avec la réalité de ce monde, je ne suis pas sûr que c'est le même Dieu. L'idée d'une compensation dans un ailleurs, autrement, plus tard, et que l'espérance se réduit à cette jubilation anticipée en attendant vivre comme une société malade, ça ne vaut pas. Je dirais même, c'est une dangereuse illusion. Alors il y a aussi pas de liberté, oui, libération, non. Surtout pas, on sait ce que c'est les églises sous la loi, tu dois te conformer à une sorte de vie qui est figée. Et c'est vrai qu'il faut réagir contre ça, il faut de la grâce quand on parle d'éducation et de changement d'habitude. Mais il y a des gens qui sont des traumatisés du légalisme, et dès que l'on dit « Jésus veut », ils ont peur, à part la liberté de Paul, qu'ils n'arriveront pas bien à définir. Vous saisissez ? Je parle comme si je parlais à des ménos. Vous me pardonnez, vous prenez ce qui est pertinent pour vous. Hein. J'ai assez de chats à fouetter avec moi et les miens, ça va ? Alors on a inventé une option. Parce qu'on aime la parole. On veut être un peuple saint, l'option de la séparation. C'est une option, je crois, qui est nécessaire. On ne veut pas être du monde, pour reprendre Jésus comme nous le rappelle Jean, hein. Dans le monde, mais pas selon le monde, pour ne pas être du monde. En suivant le Christ, qu'on aime, c'est lui qui nous a rachetés, on le sait, on veut le suivre, on va vers une certaine non-conformité en esprit et dans les faits. C'est vrai qu'on va se distinguer, que certaines choses, on ne va plus les faire avec. Mais on court le danger de développer une certaine ascèse et à oublier pourquoi, en vue de quoi Jésus nous sauve, on risque d'être dans notre bocal. Et à tourner en rond. Et pour me rassurer peut-être aussi, puisque vous vous souvenez de mes peurs, je m'isole. Au fond. Et je me surprends à juger les autres. Pas juger pour restaurer, mais juger pour se distancer. Avec Jésus, on peut faire pas mal de choses, hein, même une idole. Oh. Un veau d'or, si vous voulez, un Jésus en or. Hein. Les chrétiens pharisiens, et je crois bien que les évangiles nous parlent des pharisiens parce qu'il y avait des gens qui avaient la coutume pharisienne dans l'église de Jésus, au premier siècle, ajoutent, et je crois que c'est pour ça que Matthieu 6 en parle tellement, le désir d'être vu. C'est une compensation. Le besoin d'être vu. Et de briller. On va parler de la spiritualité du royaume un peu plus tard. Alors, il nous faut découvrir l'option qui, en théorie, nous la connaissons tous, être du monde, mais pas selon le monde, d'accord ? Celle-là, je sais que nous la partageons. C'est une option pour laquelle plaide le Messie, dans, mais pas selon, c'est-à-dire avec une autre mentalité. Dans, mais pas selon. Et maintenir les deux ensemble, c'est vraiment une prouesse technique, hein. C'est volatile. Soit on est dans et selon, soit on est différent, mais plus dans. C'est vite qu'on glisse de l'un à l'autre. Hein. Maintenir les deux ensemble, dans et pas selon, c'est un combat. J'aimerais même vous dire, vous qui aimez les combats contre les puissances, pour moi, les combats contre les puissances, c'est ça. Et c'est, laissez-moi entendre, rien d'autre. Mais franchement, rien d'autre. C'est ça, le combat contre les puissances, le combat spirituel. Si vous regardez bien dans Éphésiens 6, c'est pas sorcier. C'est franchement concret. C'est le tout de la vie qui est touché. Regardez bien. On fait rien là-haut, on fait tout ici. Le zèle que donne l'évangile de Shalom, la vérité du Christ. Ce n'est pas le moment de faire Éphésiens 6, mais vous pouvez regarder hein, chez vous. C'est ce combat qu'il s'agit de mener. C'est ceci qui intéresse le Seigneur. C'est les moyens qu'il a donnés qu'il voudrait qu'on utilise. Si on doute de cette exigence, on ne s'y engage pas. Parce que c'est difficile. Le chemin de la facilité mène soit selon le monde ou bien hors du monde. Penser de façon chrétienne ou biblique, c'est vivre de façon messianique. J'utilise ce mot qui n'est pas un courant, quelque chose de courant. Hein. Vivre de la façon dont Jésus a voulu pour nous, messianique, avec les moyens spirituel qu'il a donné pour que ce soit possible. L'Esprit Saint. C'est son boulot, les amis, le Saint-Esprit. Enfin, s'il y a une chose où je dis le Saint-Esprit est présent, c'est quand on obéit à Jésus. Mes amis, alors le Saint-Esprit est présent. C'est-à-dire quand les dons convergent vers l'utilité commune. C'est la même chose, hein, dit à la manière de l'apôtre Paul, hein, vers l'édification, vers la pro-existence. Entrer dans le projet du Messie, et dès lors se pose la simple question de la finalité visée par Dieu. Vous savez, que l'Église soit l'Église. J'aimerais vous dire, c'est simple, que l'Église de Jésus soit l'Église de Jésus, c'est notre témoignage. Que l'Église soit l'Église. C'est-à-dire, fidèle aux convictions fondamentrices de son fondateur et de son sauveur, de son Seigneur. N'allez pas me dire que Jésus est le sauveur s'il n'est pas en même temps le Seigneur. Ou bien, qu'il est le Seigneur s'il n'est pas en même temps le sauveur. Il est simultanément le Seigneur et le sauveur. Il n'est jamais l'un ou l'autre. C'est même pas d'abord ça et ensuite ça. C'est en tant que Seigneur qu'il est le sauveur. Et c'est en tant que sauveur qu'il est notre Seigneur, et ça le restera, et nous en sommes dépendants. Alors, cette question théologique, elle est là. En vue de quoi la grâce? C'est une question toute simple. Les plus profondes sont vraiment toutes simples. En vue de quoi la grâce de Dieu? Nous y avons touché avec le passage, repris d'une épître paulinienne. En vue de quoi le salut? En vue de quoi la sainteté? Vous allez voir, c'est une bonne question. En vue de quoi la vie? En vue de quoi mon métier? En vue de quoi mes dons? En vue de quoi mes biens? Parce qu'on peut se focaliser sur toutes ces choses, mais si on oublie ce pourquoi elles sont faites, on perd la bonne perspective. La bonne perspective, c'est la question du théologien. À quoi les chrétiens s'engagent-ils lors de leur baptême? Moi, ça m'intéresse de jeter un coup d'œil sur l'enseignement catéchétique. Qu'est-ce qui est clair quand je dis « je veux être membre de l'Église » Qu'est-ce qui est clair? C'est pas simple comme question, hein? Qu'est-ce qui est authentique? Nous, qu'est-ce qui est clair? À quoi te sais-tu engagé quand tu deviens fonction vivante dans cette Église, par le baptême? Nous sommes tous ici dans des églises de professants, je pense. Oui, hein? Bien sûr. Quelle est la solidarité nouvelle dans ce peuple dans lequel il est greffé, par la grâce de Dieu? Quand nous prenons la Sainte Cène, qu'est-ce qui est renouvelé dans l'engagement de vie? Autrement dit, comme le disait un réformateur radical avant Calvin, prenant le pain, je m'engage à aimer le prochain dans l'Église, de tout mon cœur, de tout mon... Et je suis un pain avec lui. C'est un réengagement d'amour, la Sainte Cène. Si ça ne l'est pas, il faut se poser la question. S'il a fait ça pour nous, nous le faisons pour les autres. Célébrer la Sainte Cène ensemble, c'est se réengager dans le projet missionnel de Dieu. En vue de quoi la prédication? Tout simple. En vue de quoi la prédication? Je ne prêche pas de la même manière, si c'est pour faire une belle prédication ou si c'est pour rester dans le projet de Dieu. En somme, quel Dieu est-ce que j'adore? Et l'encouragement mutuel que certains appellent la prophétie, les dons, en vue de quoi? Alors, ce que l'on préconise, c'est un engagement clairement en Christ. En Christ est ma nouvelle identité, ma nouvelle solidarité aussi. Je dis non à une autre où je relativise d'autres solidarités par rapport à cette solidarité, à cette perspective-là. Ça ne vient pas de nous. Il s'agit de la recevoir par la grâce. Mais la grâce ne fait pas que de justifier, elle transforme. c'est-à-dire elle forme nouvellement. Elle réoriente le tout de la vie. Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. C'est la perspective, c'est celle de notre Sauveur, c'est aussi notre mission ancrée en Christ. Alors, l'option de communauté messianique, c'est être par l'Esprit ramené au mandat créationnel, restauré à l'image du Christ. Ça, c'est de la haute théologie. Il y a eu un Adam, et il y a le chef d'une nouvelle humanité qui s'appelle Jésus-Christ. Pourquoi Jésus est venu ? Pour une nouvelle humanité, pour une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, pas voici une nouvelle créature, mais voici une nouvelle, et les mots peuvent être les mêmes, création. La différence entre créature et création, c'est que dans la création, il y a des rapports entre les gens et avec le monde. Voici une nouvelle création. C'est célébrer que nous sommes créés pour la communion. Vous savez, moi je crois que c'est la grande leçon du sermon sur la montagne. Nous sommes faits pour être pro-existants. Nous sommes faits pour la communion. Tous les gens sont faits pour la communion. Pour la koinonia. Pour gérer la terre. C'est devenir plus généreux et s'investir dans une dynamique de réconciliation. Nous en avons parlé. C'est être reconnaissant envers Dieu et placer en lui notre confiance pour le futur. C'est pour cela qu'est venu le Christ, qui nous a choisis et que l'Esprit Saint nous a été envoyé. J'ai concrètement, c'est vivre déjà sa vie avec ses relations, ses rapports aux générations, à l'argent, à la parole, au sexe différent, aux conflits, aux voisins, individuellement. Également son métier comme service de Dieu, vivre de manière pro-existante, c'est être disponible pour être enfin attentif aux œuvres bonnes réservées pour moi, nous, afin que nous les fassions en vue d'une création guérie. C'est une bonne petite question que l'on peut poser aux gens. Qu'est-ce qui est déjà sauvé dans votre vie ? Qu'est-ce qui est déjà libéré dans votre vie ? C'est pas bête, hein ? À part le casier judiciaire. Autrement dit, où est-ce que le Saint-Esprit est encore en train de besogner ? Alors, que dit notre vie, des choses un peu concrètes ? Si on ne se réfère jamais au Sauveur et à Dieu, notre vie dit « Je me sauve tout seul, merci, j'ai ce qu'il me faut ». Ça, c'est une maladie des ménos. Pendant 300 ans, on leur a tapé sévèrement sur les doigts. Maintenant, ils ont retiré leurs mains. Pour rester tranquilles dans une région, ils ont appris à ne plus témoigner, puisque c'était la condition pour rester. Vous comprenez ? Mais implicitement, ils disent, le salut vient des ménos. Implicitement. Si tu ne dis pas où est la source de la vie, tu dis implicitement que ça vient de vous. Alors, ils acceptent les admirations. C'est un peu ambivalent, ce truc. Vous savez, normalement, ils sont modestes, hein. De quoi témoigne notre vie ? La vie normale parle pour l'environnement avant le programme d'une église. La vie parle. Et là, je parle d'abord de la vie normale, hein, pas des programmes. Combattre le racisme et la préférence nationale méprisante, c'est dire que Dieu aime tout le monde. Et alors, le reste, vous lisez dans mon bouquin, ça va ? Il y a plein d'exemples, mais j'ai pas le temps. La vie parle. Être du côté des pauvres, c'est dire que Dieu ne les abandonne pas. Parce qu'eux sont en situation de besoin, contrairement à ce qu'affichent beaucoup de nos contemporains. Commençons avec ceux qui sont en situation de besoin. De quoi témoigne notre vie, la vie normale ? Savoir faire la fête. Vous savez ce qu'on dit ? Si on voit que vous êtes joyeux et que ça ne dépend pas de vous, vous savez faire la fête avec des choses simples, ça veut dire que Dieu aime la fête. Vous savez vous reposer ? Ça veut dire que vous croyez dans le salut par la grâce. Parce qu'il y a des gens qui courent après les loisirs. Hein. Oh. Se exténuer. La vie normale parle, se reposer périodiquement, faire des détours pour se réconcilier, c'est dire que Dieu aime la communion, qu'il a même la priorité. C'est important que j'aille le trouver pour le gagner, pour être de nouveau en bon terme. C'est important. Lâchez tous les programmes de l'Église, si ça c'est pas clair, parce que ça va pas durer. Vivre tant que c'est possible, en bonne entente. Ça se travaille, ça tombe pas tout cuit du ciel. Partager de son surplus, c'est dire que Dieu aime le monde et qu'il fait bon faire partie du peuple international de Dieu. L'Église est une troupe d'intervention pour le shalom et pour la koinonia, pour la guérison des nations, comme le dit l'Apocalypse. Vous savez, les feuilles servent à la guérison des nations. Où est-ce que la terre est malade est une des questions que nous pouvons nous poser. Voilà, je termine ici pour le premier module. C'est suffisant, hein. On reprend après sur la justice du royaume.